François Gombeau, c'est mon nom. Je suis enseignant depuis 35 ans. Enseignant, j'ai commencé par enseigner le travail de la voix et du chant classique, étant moi-même chanteur. Et puis j'ai très très vite compris que c'était pas la voix qui était le problème, mais la façon de se tenir, la façon de gérer ses mouvements, sa respiration. Donc j'ai introduit le mouvement dans ces séminaires sur le thème de la voix. Ensuite, j'ai suivi cette formation Feldenkrais qui a peaufiné encore mon approche du mouvement et de l'organisation de chacun. Et j'ai fait ma formation, je l'ai finie il y a 25 ans. J'ai tout de suite, comme j'avais déjà des élèves, j'ai tout de suite intégré et développé mon propre centre il y a maintenant 19 ans. Il s'appelle l'Espace du temps présent, dans lequel je donne des cours, des séminaires. J'en donne aussi beaucoup partout en Europe et dans beaucoup de pays du monde. Et puis, je suis devenu après assistant dans cette méthode et puis traîneur, c'est-à-dire formateur de futurs praticiens. Et c'est à ce titre que j'enseigne dans des formations professionnelles. Mais je continue à être absolument passionné par le travail avec le public, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, qui se pose des questions, qui à un moment donné rencontre une difficulté, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de regarder la vie autrement, qui n'est pas satisfaite de sa façon d'agir et de vivre, et qui cherche à travers ce travail ou la rencontre avec moi, pourquoi pas, une façon de sortir de ses impasses.
Et comment êtes-vous entré en contact avec cette méthode? Comment vous y êtes venu?
C'est tout simple, comme c'est le cas la plupart du temps. J'ai eu un très gros accident dans ma vie à un moment donné, et j'étais supposé être dans un petit fauteuil roulant. À l'âge de 30 ans, je n'avais pas envie, donc je faisais un certain nombre de choses. Notamment, j'ai rencontré un kinésithérapeute passionnant qui animait des séminaires, qui s'est occupé de moi d'abord, et puis qui animait les séminaires que j'ai suivis. Et il se trouve que ce monsieur avait rencontré Feldenkrais, qu'il avait retiré de ses rencontres un certain nombre de leçons qu'il avait aussi puisées dans le livre Énergie et bien-être par le mouvement, que donc j'avais toujours travaillé ces leçons et ces principes. Et un jour j'ai vu une affiche parlant d'un week-end animé par une certaine Madame Pfeiffer. J'y suis allé par curiosité et ça ne m'a pas révolutionné dans ma façon de penser ou de pratiquer, puisque je le pratiquais déjà sans le savoir. Mais ils ont annoncé une formation professionnelle, j'ai eu envie de la faire, je l'ai faite. J'ai toujours été, depuis très petit, un passionné de l'enseignement. Je me souviens que très tôt, dès que j'apprenais quelque chose, il fallait que je trouve quelqu'un à qui l'apprendre. Je commençais la flûte traversière, après trois cours, je montrais à d'autres amis, des jeunes enfants, comment souffler dans la flûte. Quand j'étais petit chanteur, donc faisais partie d'un chœur d'enfants, j'ai voyagé dans le monde entier. Et très vite, je suis devenu chef de pupitre, c'est-à-dire que j'enseignais aussi comment placer sa voix, comment travailler la musique. Donc j'ai toujours eu cette envie de partager avec d'autres ce que je découvrais au fur et à mesure que je le découvrais. Et d'ailleurs, quand j'ai suivi la formation Feldenkrais, tous les soirs de la formation, j'avais mes propres groupes, puisque j'étais déjà enseignant, et je leur donnais les sons que j'avais eus dans la journée, parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait partager, que c'était... Voilà, c'était la richesse de toute l'histoire, c'est que tout ce que je recevais devait passer à d'autres. Voilà mon parcours.
On vous demande ce que c'est que la méthode Feldenkrais, vous répondez quoi?
Je suis comme tout le monde, j'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce qu'il y a autant de façons de le voir que de façons de l'enseigner que de personnes qui reçoivent les leçons. Et pour moi, ce n'est pas une méthode, c'est plus un état d'esprit, une série de principes qu'on utilise dans la façon de regarder l'autre, dans la façon de l'aborder, la façon de l'inviter dans des séquences et des explorations.
Et quels sont ces principes?
Ce sont des principes de vie et de bon sens. Et il y en a un qu'on a abordé aujourd'hui dans la formation, par exemple, qui est qu'on peut toujours aborder les choses de façon différente. Il y a toujours une façon distale d'aborder les choses, c'est-à-dire comme venant de l'extérieur ou de la partie la plus externe, et une façon proximale qui vient plus du centre. Si par exemple quelqu'un a une difficulté au niveau du poignet, une tendinite du poignet chez un instrumentiste, eh bien tout mouvement de la main par rapport au bras est un mouvement qui sera douloureux parce que c'est le lieu de la tendinite. Si vous fixez la main et qu'au contraire vous commencez à bouger le coude et l'épaule et la cage thoracique et tout l'ensemble de la personne par rapport à la main, eh bien vous verrez que ça deviendra beaucoup plus facile parce que ça n'est pas le chemin habituel. Donc un des principes, c'est aussi d'aller dans l'inhabituel pour redécouvrir comment dans l'habituel être plus confortable. Il y a beaucoup d'autres principes. Il y a un principe intéressant qui est que nous sommes organisés par rapport au champ de gravitation. Et que si on veut explorer, découvrir, eh bien on peut simplement changer de positionnement par rapport à la force de gravitation. Et que ça permet d'avoir des sensations très différentes. Et un autre principe tout à fait important, c'est que l'être humain fonctionne d'après l'image de soi, c'est-à-dire une image qui s'est construite au fur et à mesure de ses expériences, comme très jeune enfant et puis comme adulte aussi. L'image de soi, pas seulement au sens psychologique, mais véritable représentation de soi dans le cerveau. C'est à partir de cette image de soi que le cerveau construit l'action. Eh bien, cette image a été perturbée, dégradée par tout ce qui nous est arrivé, les traumatismes, les accidents, les idées reçues, des méthodes parfois aussi. Et une des choses que l'on cherche à développer dans le travail, c'est donner une occasion à chacun et chacune de restaurer cette image de soi dans toute sa richesse, dans tout son dynamisme, dans sa différenciation. Plus on se connaît et se représente soi-même d'une façon riche, et plus dans la vie, on aura des actions et des réactions qui seront pertinentes. Un autre élément essentiel, c'est l'adaptation et l'ajustement. Il ne peut pas y avoir de vie libre et d'action cohérente par rapport à l'environnement, par rapport à nos émotions, par rapport à nos intentions, si nous ne développons pas cette capacité d'adaptation et d'ajustement. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde autour bouge, parce qu'il nous influence, parce qu'on n'est jamais tout seul. Et je crois que la société évolue dans une direction qui demandera à chacun de plus en plus de capacité d'adaptation. Quand on regarde les parcours professionnels, les parcours de santé, les parcours personnels et familiaux de chacun et chacune, on voit bien que ce qui était linéaire pendant tellement de générations ne l'est plus aujourd'hui. Tout bouge tout le temps. Donc il va nous falloir développer des grandes capacités d'ajustement et d'adaptation pour continuer à tracer notre route. Donc ça, c'est une des choses qu'on cherche à développer beaucoup. Après, dans le travail, aussi comprendre que l'écoute de soi, mais dans le bon sens du terme, qui n'est pas l'enfermement dedans de soi, mais simplement l'interaction entre ce que l'on fait, ce que l'on sent, nourrit nos capacités, nourrit notre sensation de nous-mêmes et notre capacité d'aller vers l'extérieur et d'agir. Donc, dans le travail, on va s'attacher à créer ce pont permanent entre ce que l'on fait et ce que l'on sent. Plutôt que d'être toujours dans le faire, s'intéresser à comment on le fait, comment on initie, quelle idée on a, comment on le développe, comment ça s'arrête. Est-ce que ce sont des mouvements et des actions de qualité? Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Et bon, on travaille sur toutes ces notions, qualité d'un mouvement physique, qualité d'une action, reproductibilité, moins d'efforts, plus de respect de la façon dont on est construit, comment on est fait pour fonctionner. Il ne faut pas oublier que le docteur Feldenkrais était un physicien, donc c'est un passé de scientifique très rigoureux, et qu'il avait un sens de la biodynamique et biomécanique du corps humain très importante, de par ses études de physique et aussi ses études dans les arts martiaux, puisqu'il a été la première ceinture noire de judo en Europe. Et cette méthode me passionne, et cette façon de travailler me passionne parce qu'elle ouvre un peu le champ des possibles.
Qu'est-ce que c'est qu'une séance de prise de conscience par le mouvement?
Le docteur Feldenkrais, dans sa pratique et en fonction des périodes, a développé deux démarches particulières qui sont tout à fait reliées dans leurs principes, mais différentes dans leur application. Si ce qu'on appelle une leçon d'intégration fonctionnelle est une leçon d'un professeur avec un élève, pendant laquelle le professeur conduit son élève avec ses mains dans des séquences de mouvements très organisées, tenant compte de ce qu'il sent de son élève, de l'interaction qui se crée et de ce qui est à apprendre, la séance collective de prise de conscience par le mouvement est une séance qui est faite d'une séquence de mouvements et de variations très précises qui s'enchaînent, qui sont souvent ont un thème fonctionnel ou un thème de clarification d'une articulation. Et ces séances sont donc tout un environnement que l'on crée qui va permettre à chacun des participants, quel que soit son niveau, quelles que soient ses connaissances, quel que soit son état de santé, de progresser très progressivement et d'aller vers une meilleure connaissance de soi et une utilisation de soi plus fonctionnelle. Donc le professeur va guider ses élèves avec sa voix, avec le langage, et il le guide dans tout un processus et des séquences d'exploration dans lesquelles la recherche de comment réaliser le mouvement, comment s'organiser, est plus importante que ce que l'on fait, ou en tout cas que ce que l'on réussit. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le cheminement. C'est comment ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on met en jeu. Et donc le professeur passe sa séance à attirer l'attention, à proposer d'écouter kinesthésiquement, c'est-à-dire par les sensations qu'on a de ce qu'on fait, et créer des variations qui vont permettre d'éclairer, qui vont permettre de chercher d'autres façons de faire, qui vont permettre de s'écouter différemment, de redevenir curieux par rapport à soi-même, puisqu'on sait très bien que beaucoup des limitations sont liées à la façon de s'écouter, de se regarder, au point de vue qu'on a par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'il faudrait faire. On a tous eu une éducation qui est très normative, et là, dans notre travail, on essaye plutôt que de donner la norme, on essaye de faire émerger ce qui est bon pour la personne, ce qui est fonctionnel pour l'être humain, ce pourquoi nous sommes faits. Je suis un passionné de ces séances de prise de conscience par le mouvement, parce que pour moi, elles sont la base. Autant l'intégration fonctionnelle, c'est-à-dire la leçon d'un professeur avec son élève, guidée par les mains, est intéressante parce qu'elle apporte des éclairages, parce qu'elle permet de faire travailler des personnes qui ne rejoindraient pas le groupe, parce qu'elle permet d'aller plus loin à certains moments. Et autant la leçon de prise de conscience par le mouvement est une prise en charge autonome de son propre devenir, et pour moi c'est tout à fait essentiel. Il ne s'agit pas de régler le petit problème qu'on a à un moment donné dans sa vie, il s'agit de continuer à apprendre, il s'agit de se développer. Et je trouve que la forme de leçon de prise de conscience pour le mouvement, c'est-à-dire de leçon collective, est particulièrement adaptée pour ça. C'est une leçon individuelle dans le cadre d'un groupe. C'est une leçon dans laquelle tout ce qui est dit aux voisins, tout ce qui est dit à l'ensemble du groupe, est une occasion de se questionner soi-même et enrichit l'expérience. Et je crois qu'on y voit de façon très fondamentale tous les instruments nécessaires pour que la vie soit plus facile. C'est pour ça qu'elle me passionne. Elle me passionne aussi parce que quand on a quelques personnes devant soi, ça peut être 4 personnes, ça peut être 20, ça peut être plus, il y a une richesse de fonctionnement différent, une richesse de créativité chez toutes ces personnes qui sont devant nous, qui nourrissent l'interaction et qui nourrissent notre capacité à créer des variations, à être inventif, à renouveler toujours. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant. On n'est pas enfermé dans une pratique, dans quelque chose qu'on a déjà fait. On est dans la redécouverte chaque fois parce que ça s'adresse à des personnes différentes qui ont des questionnements différents. On est dans la redécouverte et la recréation de séances, de dynamiques, de sources d'intérêt. Moi, je trouve ça fascinant.